chante, alléluia. Ça, c'était le chant qu'on vient de chanter, qui est très beau. On n'a que des beaux chants. 1 Corinthiens 4, 16. C'est Paul qui parle. Il dit, je vous encourage à suivre mon exemple. Dans d'autres versions plus anciennes, c'est soyez mes imitateurs. On va lire 1 Corinthiens 11, 1. Efforcez-vous de m'imiter comme moi-même j'imite le Messie. Je vous félicite parce que vous vous rappelez tout ce que je vous ai appris et parce que vous observez les traditions comme je vous ai transmises. Bien. Tradition, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose forcément de faux. Il y a des bonnes traditions, il y en a des moins bonnes. Mais il les félicite parce qu'ils ont retenu ce qu'il a appris et qu'ils vivent les choses qu'il leur a appris. Vous savez, en général, les chrétiens ont tendance à tout spiritualiser. Et moi, ça m'agace. Alors là, ce matin, je vais mettre le clou et je vais taper dessus un peu fort. Jésus, je te prie afin que tu bénisses mes frères et sœurs qui écoutent ce message, qui regardent ce message aussi sur la vidéo. Je te remercie, mon Dieu, de me remplir de ton esprit aussi pour que je puisse annoncer cela d'une façon claire et que cela soit compris et que ça rende mes frères et sœurs plus efficaces. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Tout spiritualiser, tout le temps. Il nous faut absolument savoir, absolument, que Dieu a créé tout l'univers, et c'est pas rien, et que tout l'univers est régi par des lois. Chaque fois que quelque chose se produit, il y a une raison. Nous ne pourrions pas avoir la foi. Une foi ferme, si nous ne savons pas que lorsqu'une chose se produit une fois, eh bien dans les mêmes conditions, elle va se reproduire. On ne pourrait pas avoir la foi sans avoir cette ferme assurance, je répète, que si une chose se produit une fois, eh bien, si on crée la même condition, eh bien, elle va se reproduire. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais c'était Jésus qui faisait des miracles. Ah, mais c'était les apôtres qui faisaient des miracles. Ah, mais c'est les grands serviteurs de Dieu qui font des miracles. » Pourquoi disent-ils ça? Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. » Et il donne une liste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Alors, puisque tout obéit à des lois, ben, il faut réfléchir, c'est quoi ces lois? Peut-être qu'on a raté quelque chose. Peut-être que c'est à cause de ça que ça ne marche pas. En conséquence, si vraiment, lorsqu'une chose s'est produite une fois, il y a eu une fois un miracle avec Jésus, et depuis, ben, il y en a tout le temps. Parce que Jésus est le Dieu des miracles et il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En conséquence, si la prière faite au Père, j'insiste bien, pas à la Vierge Marie, pas à Saint machin, à Jésus nous a enseigné de prier le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous faisons notre prière au Père, comme Jésus nous a enseigné de le faire, et non pas comme les religieux enseignent de le faire, eh bien, ça doit fonctionner. Ce que je vous dis doit être vrai, sinon l'univers serait un chaos, plutôt qu'un cosmos. On dit toujours le cosmos. Mais ça veut dire quoi, cosmos? Qui a l'explication du mot cosmos? Et bien, encore une fois de plus, vous allez dire que je suis vraiment un casse-pied. Mais là, j'aime la Bible, mais j'aime autant le dictionnaire. Pourquoi? Parce que les mots qui sont dans la Bible, on trouve leur signification dans le dictionnaire. Et si on veut savoir ce que signifie un mot qu'on trouve dans la Bible, eh bien, on va le chercher dans le dictionnaire. Que signifie le mot cosmos? Eh bien, le mot cosmos signifie bon ordre. Alors que le chaos, vous savez ce que ça signifie? Exactement le contraire. La confusion, le désordre grave, le chenier, comme on dit en Suisse, le fouillis, comme vous dites en France. C'est-à-dire, on n'est pas sur un terrain solide. Dieu pourrait-il nous demander d'avoir une foi ferme en lui et en ce qu'il dit, si sa parole, ses promesses, ses commandements ne sont pas cosmos, mais chaos? Ça serait malhonnête de sa part de nous demander d'avoir une foi totale en lui. Là, les paroles, les promesses et les commandements de Dieu sont des ordres bien établis, définis, et il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Voilà ce que moi je lis dans ma Bible. Et voilà ce que je prêche, parce que je suis appelé à prêcher une bonne nouvelle. Quand j'entends les bons pasteurs qui veulent exhorter les gens, en leur parlant de Trophime qui est resté malade à Millet, de je ne sais plus qui, Timothée qui avait des problèmes gastriques, qu'est-ce qu'ils attendent en semant des choses comme ça dans leur réunion? Ils attendent quoi? Ben que les gens disent, ah ben oui, finalement, bon, ben c'est pas pour tout le monde, Trophime est resté malade à Millet, bon ben voilà. Mon frère, ma soeur, la réponse à la prière, elle est soumise à la loi que Dieu a ordonnée, dans le sens ordre, de l'ordre suisse. Il l'a mis en ordre. Les lois de Dieu sont définies exactes comme la loi, par exemple, de la gravitation. Les choses tombent, c'est comme ça. On serait bien embêté s'il n'y avait pas ça, parce que tous les objets voleraient. Où c'est que t'as mis la fourchette? Je sais pas. Ah, elle est là-haut. Ça serait le chaos. Alors, mes frères et sœurs, je me souviens de Raphaël. Pour ceux qui ne connaissent pas, Raphaël, c'est le gitan illettré qui m'a emmené à Jésus en 1968. Il ne savait ni lire ni écrire et il prêchait l'évangile avec une foi formidable. Raphaël le gitan. Il montait sur l'estrade, je l'ai vu des dizaines de fois, montait sur l'estrade avec son franc sourire, et il voyait les souffrances qu'il y avait dans l'auditoire, il voyait les malades, il les voyait, mais il était calme parce qu'il savait, il était sûr, il était certain qu'il y aurait des miracles. Il était certain. Pour quelle raison était-il certain? Parce qu'il connaissait les lois de Dieu. Il savait qu'il fallait qu'il dise les paroles de Dieu qui concernent les miracles pour avoir des miracles. Il conduisait d'abord les gens à se repentir pour les mettre dans la condition juste devant Dieu, et puis ensuite il disait les paroles qui concernaient les miracles. Ésaïe chapitre 53, Marc 16, il parlait de toutes ces choses-là, et il disait ces paroles jusqu'à ce qu'il voit que la foi de son auditoire avait augmenté. On va lire quelques passages dans les Écritures. Matthieu chapitre 9, verset 2. Matthieu chapitre 9, verset 2. Des personnes lui amenèrent un paralytique couché sur un matelas. Quand Yeshua vit la foi qu'il avait en Dieu, il dit au paralytique, « Courage mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Entendons cela, etc. Et vous savez qu'il était guéri. On va lire Marc 2, verset 15. Non, Marc 2, verset 5. Jésus. Voyant leur foi, Yeshua dit au paralytique, « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Voyant leur foi. Luc 5, 20. Quand Yeshua vit leur foi, il dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Et il guérit. Les apôtres ont vu comment Jésus faisait, et alors ils ont fait la même chose. Regardez par exemple Actes chapitre 14, verset 9. Cet homme écouta parler Shaoul. Ouais. Fixant les yeux sur lui, Shaoul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit alors d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. Il a vu qu'ils avaient la foi. Mais il leur prêchait. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il a vu que la foi augmentait dans les gens. Ça se voit à la figure des gens. Il n'y a rien de plus désespérant pour les pasteurs que de regarder leur auditoire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont désespérants eux-mêmes. Mais quand on apporte la foi, alors la foi commence à grandir au début. Et puis ça devient de plus en plus fort. Et quand on voit qu'il y a la foi, alors ça marche. Après avoir semé la parole miracle dans les cœurs, Raphaël voyait leur foi. Pour voir que les gens ont la foi, il faut d'abord la créer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout de foi. Ou alors il faut l'augmenter parce qu'ils ont un peu perdu leur foi. Ou ils n'en ont pas assez. Rappelez-vous, frère Branham, il voit une femme arriver, on a la vidéo de ça. Il voit une femme arriver, il dit, « Oh, je vois que vous n'avez pas suffisamment la foi. » Mais si je fais comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine et que je dis des choses qui concernent votre vie, est-ce que votre foi augmentera? Elle dit oui. Il dit alors j'ai vu que ce matin vous étiez accoudé sur votre meuble, votre desserte, et que vous pleuriez en demandant si seulement frère Branham pouvait m'appeler sur l'estrade pour prier pour moi. N'est-ce pas la vérité? Oui. Et vous souffrez parce que vous avez eu un accident. Vous avez passé à travers le pare-brise. Et je peux vous dire même dans quelle ville vous habitez. Il lui dit le nom de la ville, le numéro de la maison. Il dit, maintenant vous croyez que je suis un envoyé de Dieu? Elle dit, ah oui! Il dit, alors recevez votre guérison. Sa foi avait augmenté. Jésus faisait cela. Il dit à la femme samaritaine, va chercher ton mari. Oui, je sais, t'en as 4 ou 5. Il savait les choses. Il avait vu Nathanaël à l'avance, il avait etc., etc. Il savait les choses. Et alors il faisait de sorte que les gens aient leur foi augmentée. Et nous avons la parole de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Pour un pauvre, c'est qu'il peut être enrichi. Pour un perdu, c'est qu'il peut être sauvé. Pour un malade, c'est qu'il peut être guéri, etc., etc. Et nous n'allons pas prêcher le salut à quelqu'un qui est guéri et déjà sauvé. Et nous n'allons pas prêcher l'abondance à un milliardaire. Faut être sensé. Pour voir la foi augmenter, il faut d'abord la créer ou l'augmenter soi-même par des paroles, par des témoignages. Raphaël racontait beaucoup de témoignages. Il disait, par exemple, un jour je suis arrivé à Thiers et il fallait que j'aille à l'épicerie. Je rentre dans l'épicerie, il y avait une petite gamine. Et j'ai dit, ta maman n'est pas là ? « Non, monsieur, ma maman, elle est malade. »« Ah bon? Est-ce que je peux la voir ?» Alors, la petite fille dit, « Ben, je vais aller lui demander. » Alors, elle monte dans l'escalier et dit, « Maman, il y a un monsieur qui veut te voir. » La dame dit, « Bon, ben, fais-le monter. » Alors, Raphaël arrive vers la dame qui est dans son lit. Elle avait eu une urticaire. Enfin, elle gonflait de partout. elle souffrait. Et Raphaël lui a parlé de Jésus, lui a imposé les mains, l'urticaire a disparu instantanément, elle était guérie. C'est vrai, je le sais, c'est ma belle-mère. Et la petite gamine, c'est ma femme. Mais je l'ai entendu raconter cette histoire longtemps avant de connaître ma femme. En Suisse, il racontait ça partout, tout le temps. Et d'autres guérisons, d'autres choses. Pour augmenter la foi des gens. Et à ce moment-là, quand la foi a augmenté ou qu'elle a été créée, dans le cas de Rachel, il fallait créer la foi parce que c'était une catholique qui n'y comprenait rien du tout. Donc, il a fallu créer la foi. Et à ce moment-là, vous priez avec votre foi et la foi de la personne concernée. Et là, vous êtes dans la loi de Matthieu, chapitre 18, verset 19. Qu'est-ce que c'est la loi de Matthieu 18, 19 ? C'est Jésus qui dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous, ici sur terre, s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là avec eux. Hé ! Il faut créer les conditions. Il ne peut pas pleuvoir s'il n'y a pas de nuages. Il faut créer les conditions. Tout est en ordre et on récolte ce qu'on a semé, c'est-à-dire des miracles. Si on a prêché les miracles, si on a augmenté la foi des gens. Vous ne pouvez récolter que ce que vous avez semé. C'est une loi de Dieu qui marche avec tout. Moi-même, je suis le produit d'une semence. Vous êtes le produit d'une semence. Les arbres que je vois là sont des produits d'une semence. Les fleurs, tout est une semence. Était d'abord une semence. Et c'est une loi de Dieu. L'univers de Dieu est régi par des lois. Maintenant, il y a des maladies qui viennent pour la mort, qui mènent à la mort. On va regarder ça dans Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme qui était tombé malade, il se nommait Lazare si vous préférez. Il était originaire de Bethania, le village où vivaient Myriam et sa sœur Martha. Myriam, dont le frère Éléazar était malade, est celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Les sœurs envoyèrent donc dire à Yeshua, « Seigneur, celui que tu aimes est malade, ton ami est malade. » Lorsqu'il apprit cette nouvelle, il dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, non, c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu puisse être glorifié par elle. » Le Seigneur est glorifié par les guérisons, mais il y a des maladies qui mènent à la mort. Il faut lire la Bible. Il faut bien mourir de quelque... Pardon, mais il faut bien mourir de quelque chose. Et... Donc, il y a des maladies qui mènent à la mort, mais toutes les maladies ne mènent pas à la mort. Et Jésus a dit, cette maladie qu'il a, ça ne mène pas à la mort. Puis, il ne s'est pas inquiété, il a laissé courir le temps. Puis, quelques temps après, on vient lui dire, mais Lazare est mort. Il dit, bon, on va y aller maintenant, pour que vous arrêtiez de douter. Et il l'a ressuscité. Amen. C'était plus fort encore qu'une guérison. Mais donc, voilà comment ça se passe. Jésus savait des choses parce qu'il avait une communion avec son Père qui était extraordinaire. Moi, par exemple, je ne sais pas ces choses. Je ne sais pas si une maladie vient pour la mort ou pas. Je n'ai pas ces révélations. Je ne sais pas. J'en suis pas encore arrivé à ce point de spiritualité où je peux savoir si quelqu'un va mourir de sa maladie ou pas, je ne sais pas. Osborne n'a jamais atteint ce niveau non plus. Il priait pour les masses de personnes. Raphaël n'a jamais atteint ce niveau non plus. Mais par contre, William Branham avait ce niveau-là. Il ne priait que pour des gens dont il savait qu'ils étaient là pour être guéris. Vous savez ça ? Des gens lui reprochaient de faire quelque chose d'un peu étrange. À l'entrée des auditoriums où il prêchait, il y avait un service d'ordre qui était là et qui distribuait des petits cartons avec des numéros. Et chacun dans la salle avait son numéro. Et pendant que Frère Branham prêchait, le Seigneur lui disait les numéros qu'il fallait qu'il appelle. Il disait, le Seigneur me montre qu'il faut que j'appelle le numéro 25, le numéro 42, le numéro 3, le numéro 7, le numéro 18. Venez sur l'estrade. Alors il faisait venir les personnes dont il voyait, dont le Seigneur lui révélait les numéros. Et quand ils arrivaient sur l'estrade, ils dévoilaient leur cœur et ils étaient tous guéris. Les gens disaient, oh, c'est de la télépathie, c'est du montage, c'est du... Moi, je connais des gens qui ont été guéris comme ça. C'était une femme qui était dans mon église en Suisse. Elle s'appelait la sœur Dansé, je dis, elle s'appelait parce que maintenant elle est décédée. Elle s'appelait la sœur Dansé. Et quand Branham est allé en Suisse, à Renan, tous les journaux disaient que c'était un spirit, que c'était diabolique, qu'il ne fallait surtout pas aller voir ça. Les pasteurs tapaient dessus. Puis elle s'est dit, mais quand même, je voudrais bien voir. Alors elle est allée. Elle souffrait du dos. Et quand frère Branham a appelé les gens, il lui a dit, « Oh, comme c'est étrange !» Il a dit à la sœur Dansé, « Je vois que vous êtes double. Vous avez une sœur jumelle. » Elle dit, « Oui. » Mais elle n'est pas là ce soir, elle travaille à l'hôpital, elle est de garde. Il dit, « Elle dit, oui. » Elle dit, « Elle souffre des pieds. » « Oui. » Je lui dis, « Est-ce que vous croyez maintenant que je suis un serviteur de Dieu ou est-ce que vous croyez ce que les journaux racontent ?» Alors, elle dit, « Je crois ce que les serviteurs de Dieu disent. Ce que vous avez dit, je crois que vous êtes un serviteur de Dieu. » Alors, il lui a dit, « Soyez guéri au nom de Jésus. » Et cette sœur dansée n'a plus jamais eu mal au dos et sa sœur n'a plus jamais eu mal aux pieds de sa vie. Je connais des histoires des gens, j'ai touché. Frère Osborne, je l'ai connu, il m'a raconté. Maintenant, si vous voulez aller voir Branham sur Internet, toutes les langues de vipères qui parlent à son sujet, on peut y aller. Et c'est vrai que frère Branham a dit des certaines choses un petit peu bébêtes, moi aussi j'en dis, tout le monde en dit, vous n'en dites pas, vous, des choses bébêtes. Ça arrive à tout le monde parce qu'on est des humains, il n'y a que Jésus qui n'a jamais rien dit de bébête. Mais il n'empêche qu'il avait un ministère extraordinaire, il était à un niveau supérieur d'Osborne ou de Raphaël ou de moi. D'accord. Alors, je prie, mais pas n'importe comment. Je prie en faisant ce que j'ai appris des bonnes lois de Dieu. Ces lois, je les ai apprises par Raphaël. Dans mon bureau, j'ai une vidéo de T.L. Osborne. Quand il est venu à Vincennes, au château de Vincennes, pour prêcher, et les caméras de la télévision française étaient là, et l'ont filmé. Et on le voit monter sur l'estrade avec un immense sourire. Vous savez que frère Osborne, il va avoir plus de dents que nous, c'est pas possible. Il avait un sourire avec plein de dents comme ça. Il monte sur l'estrade très décontracté, avec un immense sourire, parce qu'il se réjouissait, parce qu'il savait qu'il allait y avoir des miracles, et il s'en réjouissait doublement parce qu'il savait qu'il était en France, et qu'il y avait des journalistes, et que les caméras étaient là, de la télévision nationale, et ça l'amusait de savoir que ces journalistes français, cartésiens, bornés, ils allaient voir des choses surnaturelles. Et il a prêché pour emmener les gens au salut. Et ensuite, il a prêché en semant les paroles miracles pour récolter des miracles. Et il a raconté des miracles qu'il a vécu toute sa vie dans ses réunions à travers le monde. Et quand il a vu que l'auditoire avait une foi qui était suffisamment augmentée, mais vous savez, même les chanteurs sentent si une chanson est bonne ou pas quand ils sont en train de la chanter. Un chanteur, quand il chante, il s'aperçoit si l'auditoire aime cette chanson ou pas. Parce qu'il a une sensibilité, c'est pas spirituel. On a une sensibilité normale. Et bien quand il voyait que la voix des gens était suffisamment augmentée, tout à coup il ordonnait aux esprits de maladie de quitter les gens qui étaient là présents, et les gens étaient guéris. Et les caméramans, ils ne savaient plus où donner de la tête. J'ai la vidéo chez moi. Et parce qu'il y avait tellement de miracles, ils ne savaient plus où filmer. Et Osborne se moquait gentiment d'eux. Il disait, oh, venez regarder cette dame. Est-ce que c'est de la psychologie qui fait qu'elle est sortie de sa chaise roulante? Est-ce que c'est du magnétisme, tout simplement? Expliquez-moi. Il se moquait gentiment d'eux comme ça. Mais pourquoi Branham, Osborne, Raphaël ou moi, qui ai eu pas mal de miracles quand même dans ma vie, pourquoi nous? Il y en a d'autres. Eh bien, parce que nous avons non pas une onction particulière, ça c'est du pipeau. C'est pas l'onction. C'est parce que nous croyons que Dieu a créé un univers, un cosmos et pas un chaos. Et donc que ces lois fonctionnent si les conditions sont réunies. Quelles lois ? Ben d'abord, nous avons observé comment Jésus priait. Je lis la Bible, j'observe comment Jésus fait. Alors, déjà, premièrement, il commençait le matin, avant que tout le monde soit réveillé, il priait pour sa journée. Qu'est-ce qu'il avait besoin de prier ? Il était fils de Dieu. Oui, mais il était aussi homme. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit, d'accord, mais nous sommes quand même encore des hommes et des femmes. Donc, est-ce que vous priez le matin ou est-ce que vous vous jetez un café derrière la cravate pour courir dans le métro ? La prière, déjà premièrement. Et puis ensuite, il enseignait et ensuite, voyant leur foi, ben, il chassait des esprits de maladie. Parfois, il ne parlait pas, il n'y avait pas besoin de parler. Pourquoi ? Parce que sa réputation l'avait précédé. Moi, ça m'est arrivé souvent dans des réunions. Ça m'est arrivé encore dans une réunion, je ne sais plus chez qui c'était, un pasteur noir dans la région parisienne, où la bonne femme, dans la ligne de prière, quand elle est arrivée, elle a dit « Je suis guérie, c'est fait. » C'était fait. Je n'ai même pas prié pour elle, parce que ce n'est pas mon onction. C'est que c'est la réputation. Voilà, Michel Jonton, il a des miracles. Alors, elle y a cru. Quand il arrivait quelque part, il arrivait que des gens savaient qui il était, qu'il avait des miracles, il connaissait peut-être quelqu'un qui avait été guéri, et rien que le fait de savoir ça, ça augmentait leur foi, et il avait qu'à simplement parler à la maladie et la faire sortir, et puis voilà. Même parfois, c'était à son insu. Rappelez-vous, la femme avec la perte de sang, c'était à son insu. Il marchait et quelqu'un le touche, quelqu'un m'a touché. Oui, c'est normal, il y a plein de gens qui touchent, il y a des centaines de personnes qui nous bousculent. Oui, non, mais il y a quelqu'un qui m'a touché avec foi. Et la femme, toute tremblante, est venue l'expliquer qu'elle disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Elle était guérie. Ta foi t'a sauvé. Vous voyez ? Parce que la réputation de Jésus l'avait précédée. Vous devez avoir une réputation. Je me souviens de Catherine Kuhlmann. Ah, aussi cette sœur, elle a été bousillée, massacrée dans les églises ici, en France, hein, pas ailleurs, mais en France, parce qu'en France, on est tellement plus intelligent, n'est-ce pas, que le monde entier. Il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, qui on a mis au gouvernement pour voir qu'on est plus intelligent que les autres. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Là, je fais comme un grid, là. Ah, ça, j'aurais pas dû le dire. Catherine Kuhlmann, les gens venaient à ces réunions et souvent, ils étaient guéris dans le bus avant d'arriver dans la salle de réunion. Alors les chrétiens, ils spiritualisent tout, ils disent « Ah oui, mais Catherine Kuhlmann avait une telle onction que ça débordait du stade jusque sur les bus. » Mais, pardon, il n'y a pas d'autre mot qu'un mot grossier pour dire ce que je veux penser. Là. C'est d'une... Enfin, s'il y en a un. C'est bête, voilà. C'est bête de bête de bête. Non. Catherine Kuhlmann mettait en pratique les lois de Dieu et elle avait la réputation d'être une femme que Dieu exauçait parce qu'elle mettait les lois de Dieu en pratique. Et la foi des gens était telle qu'elle n'était même, qu'ils n'étaient même pas obligés de la voir. Ou ils étaient pas, elle n'était pas obligée de les toucher. Frère Osborne n'imposait jamais les mains aux malades. Jamais. Il faisait une petite prière qui durait 30 secondes. Et il s'asseyait. Et il regardait la foule. Il disait, ah, regardez là. Ah, regardez de ce côté. Des appareils orthopédiques, des béquilles. Il n'imposait pas les mains aux malades. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait trop. Moi, quand j'étais guéri de la gangrène que j'avais au pied gauche, il y avait tellement de monde que le pasteur a dit « Oh non, je ne peux pas imposer les mains, je ne lâche qu'après demain. Il y a trop de monde. » Alors il a dit « Je vais parler en langue et puis soyez guéri. » Et pendant qu'il parlait en langue comme ça, j'étais guéri instantanément. Mon pied qui était noir est devenu blanc. J'étais guéri instantanément. Pourquoi ? Parce qu'il avait une onction spéciale, mon œil. Il avait prêché la parole miracle. Si on veut que les gens soient enrichis financièrement, on parle de ce que la Bible dit au sujet de l'argent. Si on veut que les gens soient guéris, on parle au sujet de ce que la Bible dit de la maladie et de la guérison. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on sème est un serviteur de Dieu, et nous sommes tous serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, et il est dispensateur des paroles appropriées du Seigneur. Toujours il y a un jeune chrétien qui m'écrit « Sachez que je suis serviteur de Dieu », il est un petit peu fâché. On est tous serviteurs de Dieu. À partir du moment où on est sauvé pour servir. Il faut la carte. Moi, j'ai une carte de la Fondation Osborne, je ne sais même pas où elle est. Mes frères et sœurs, la compréhension de ces lois divines fait sortir le christianisme du royaume de la superstition et de la crédulité pour faire rentrer le christianisme à sa place, c'est-à-dire sur le rocher de la foi. Je vous dis ça parce que vous avez tous le pouvoir de guérir les malades. Ah bon, Michel, tu crois ? Bien sûr, je crois. Pourquoi je crois ? Parce que Jésus l'a dit. Les pasteurs peuvent venir me raconter tout ce qu'ils veulent. Moi, je crois Jésus. Marc, chapitre 16, versets 15-16. Puis Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui mettra sa confiance en Dieu et qui sera immergé sera sauvé. » Qui ça ? Tous ceux qui croient et qui sont baptisés par immersion. Celui qui ne mettra pas sa confiance en Dieu sera condamné. Qui ça ? Tous. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui mettent leur foi en Dieu. Qui ça ? Tous. Pas seulement certains qui ont une carte de pasteur, ou certains qui ont une onction particulière, ou certains qui ont eu le privilège d'avoir l'imposition des mains d'un homme de Dieu qui avait une onction particulière. Ben, ça, c'est de la nouillerie de superstition dont il faut absolument sortir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront nouvelles langues, ils ne seront pas blessés s'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la Bible. Moi, je crois la Bible, je ne crois pas les doctrines humaines. Je ne crois pas les doctrines humaines, ni les traditions frelatées des chrétiens modernes. Je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. Malheureusement, peu de chrétiens savent comment prier, ils ne savent pas parce qu'ils croient des choses erronées. Moi, j'ai juste regardé ce que faisait Raphaël. C'était le 1er juin 68, je me suis converti, et le 3 juin 68, j'ai prié pour mon premier malade qui était un paralytique atteint de la maladie de Parkinson qui était guéri. J'ai fait comme j'avais vu que Raphaël faisait. J'étais ni baptisé dans le Saint-Esprit et je n'étais pas baptisé d'eau non plus. Je ne savais même pas que ça existait. Ah, mais Michel, alors si tu n'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qui faisait les miracles ? Ben, c'est Dieu qui fait les miracles. Il n'y a pas besoin que Jacques soit baptisé dans le Saint-Esprit. Les apôtres, avant d'être baptisés dans le Saint-Esprit, ils n'ont pas guéri des malades ? Lisez votre Bible. Bien sûr. Nous avons tous reçu le pouvoir sur les démons, mais le secret de ce pouvoir, c'est la connaissance de ce pouvoir, la conscience de ce pouvoir. Si vous n'avez pas conscience que vous avez ce pouvoir, que Jésus l'a donné à tous, eh bien vous ne l'avez pas, c'est tout. Vous l'avez, mais vous ne manifestez pas, c'est tout. Rien ne se passera. Par exemple, je vais demander, viens Stéphane, viens ici. Viens dehors. Essaye de prendre cette Bible. Non, je n'ai pas dit de la prendre, j'ai dit d'essayer. Vous voyez là, le truc ? Alors, on recommence pour ceux qui n'ont pas bien compris. Essaye de prendre cette Bible. Non, je ne t'ai pas dit de la prendre. Je t'ai dit d'essayer. Merci Stéphane. Beaucoup de gens essayent de chasser les démons, il ne se passe rien, parce qu'ils ne chassent pas les démons, ils essayent. Ouais, mais si des fois ça ne marche pas, ils essayent. Oh mon Dieu, j'espère que vous comprenez. Mes frères, mes sœurs, tout le le monde comprend que les lois régissent l'univers, les mathématiques, la chimie, tout ce que vous voulez, c'est des lois. Mais pour une raison inexplicable, mais vraiment inexplicable, la plupart des chrétiens n'ont pas à l'idée qu'il existe des lois spirituelles. C'est étrange. Pour moi, c'est le plus grand mystère de la religion. Ah, s'il y a un mystère, c'est bien celui-là. Que les gens ne comprennent pas que pour les choses qui concernent la foi, ça répond à des lois. C'est pas le chaos, c'est pas le désordre. Les lois de Dieu sont définies. Paul dit, soyez mes imitateurs. Si moi je vous dis, soyez mes imitateurs, vous allez penser que je suis un orgueilleux. Alors je ne vous le dis pas. Je dis, soyez les imitateurs de Paul. C'est mieux comme ça, vous êtes plus... Hein. Il voulait qu'on l'imite en quoi ? Eh bien, il voulait qu'on l'imite dans sa démarche de sainteté, et il voulait qu'on l'imite dans sa démarche de démonstration de puissance. Il a dit, moi je ne suis pas venu vers vous avec des belles paroles préparées 15 jours à l'avance, comme vos beaux philosophes grecs, etc. Je viens avec mon cœur, ce qu'il y a dans mon cœur, je vous le dis, et je fais la démonstration de la puissance pour montrer que ce que je dis c'est vrai. Et il y avait des miracles et des résurrections. Vous voyez, soyez les imitateurs de Paul. Là je vais sur Révélation, pas sur Révélation, mais sur YouTube, pardon. Et je regarde tous ces pasteurs qui parlent au sujet du retour de Jésus. Qu'attendez-vous, vous chrétiens? Vous attendez le retour de Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend aussi votre retour. C'est-à-dire qu'il attend que vous reveniez aux simples vérités bibliques. Que vous fassiez demi-tour, que vous reveniez aux simples vérités bibliques. Le Seigneur vous dit, j'attends votre retour. Revenez à ma parole miracle. Revenez à la simplicité de la parole de Dieu. Qui nous apprend les bonnes lois de Dieu. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse et vous aide. Et j'espère, mais de tout mon cœur, écrivez-moi pour me raconter ce qui vous est arrivé à partir d'aujourd'hui, après avoir compris cette prédication. Je suis certain que des miracles vont avoir lieu. Écrivez-moi pour me le dire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus de fortifier et de bénir chacun qui m'a écouté ce matin, chacune qui m'a écouté ce matin. Plus jeune jusqu'au plus âgé, dans le nom de Jésus, mon Sauveur. Amen.
Amen. Amen.
Au revoir.